Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle année des mardis d'éthique publique qui continue sur le même format auquel je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà habitués, simplement avec un petit changement d'équipe et de présentation. Je vais dans quelques instants laisser la parole à Jean-Luc Poutier qui est le nouveau directeur du département d'éthique publique du Centre Sèvres et qui, à ce titre, est le responsable de ces mardis d'éthique publique, en partenariat donc avec la revue Études que je représente ce soir. L'une des particularités de cette nouvelle série de mardis, outre le changement de personne, est que ces conférences seront rediffusées sur le réseau RCF, Radio Chrétienne en France. Ce qui n'a pas d'impact sur le contenu des interventions, mais ce qui a un petit impact sur les présentations et quelques petites introductions, comme il est de coutume à la radio, pour rappeler que nous sommes à la radio et que nous avons des intervenants qu'il faudra mentionner régulièrement. Donc, vous ne vous étonnerez pas si vous entendez de temps en temps des interventions qui font comme à la radio. Voilà, vous prévenir quand même sur cela. Dernière petite remarque de forme avant de laisser à Jean-Luc Poutier le soin de présenter le contenu de la soirée. Nous avons la chance d'avoir deux intervenants tout à fait de premier plan pour le sujet, au point que l'une des intervenantes, qui est, comme vous avez pu le lire dans la presse, actuellement très sollicitée par la préparation du budget, puisqu'elle est membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, devra nous quitter impérativement à 20h30, un peu avant la fin de la soirée, pour rejoindre un autre groupe de travail qui lui prendra une partie de la nuit, si j'ai bien compris. Pas trop, j'espère.
Et probablement beaucoup moins attentif et calme que celui qui est devant moi ou maintenant.
Voilà. Voilà, donc voilà quelques indications pratiques. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Luc Poutier.
Bonsoir à vous qui êtes ici au Centre Sèvres. Merci de votre présence. Bonsoir à ceux qui nous écoutent dans diverses villes de France et du monde. Et bonsoir aussi aux auditeurs du réseau RCF, Radio Chrétienne en France, qui ont désormais la possibilité d'écouter ces mardis d'éthique publique. Le thème qui nous rassemble ce soir est « Une nouvelle classe politique, réalité et faux-semblants ». Les élections du printemps dernier ont entraîné un profond renouvellement de la classe politique française. Sans évoquer le président de la République, que peu de commentateurs avaient placé parmi les favoris au début de sa campagne, l'Assemblée nationale a connu un véritable coup de torchon. Sur 577 députés, 424 sont des novices dans cette fonction. La grande majorité d'entre eux appartiennent à La République en marche, le mouvement politique créé par Emmanuel Macron. Près des trois quarts des députés socialistes de l'Assemblée sortante sont rentrés dans leur foyer. Le renouvellement ne touche pas que les personnes ou les forces politiques. L'origine professionnelle et sociale des nouveaux élus a aussi changé. Il appartient désormais aux spécialistes de sciences politiques d'analyser dans le détail ce phénomène et d'en tirer d'éventuels enseignements. L'interminable campagne électorale de 2016-2017, depuis les élections primaires des différentes formations politiques à partir de l'automne 2016, jusqu'aux élections présidentielles et législatives du printemps 2017, cette interminable campagne a été marquée par un thème agité aux extrêmes, le dégagisme. Ni la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ni le Front national de Marine Le Pen n'ont tiré profit pour eux-mêmes de ce slogan qu'ils n'ont cessé d'agiter. Pourtant, une forme de dégagisme a bien eu lieu avec le renouvellement du personnel politique. La distinction entre représentants et représentés, gouvernants et gouvernés, est consubstantielle à la démocratie représentative. Et la dénonciation de la confiscation du pouvoir par les représentants élus est aussi ancienne que cette forme de démocratie elle-même. Ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Pourtant, il n'est pas possible d'esquiver la question de la légitimité de cette mise en cause radicale et permanente des diverses modalités de représentation du peuple imaginées par le passé. La ritournelle du tous pourri nourrit des populismes qui sont aujourd'hui un véritable danger pour la démocratie. Cela ne signifie pas que les interrogations sur la meilleure et la plus juste représentation, développée au début du XXe siècle par la sociologie des élites, ne soient pas pertinentes. Leur maniement inconsidéré n'en est pas moins un risque qu'il convient d'apprécier. Avec François Heuvé, rédacteur en chef de la revue Études, partenaire de ces mardis d'éthique publique, je remercie dès à présent les deux personnalités qui ont accepté de venir débattre ce soir de la question « Une nouvelle classe politique, réalité et faux-semblant ». Amélie de Montchalin est diplômée notamment d'HEC et de la Kennedy School of Government de Harvard, une sorte d'ENA américaine. Après avoir exercé diverses fonctions en entreprise, elle est depuis le 18 juin députée La République en marche de la 6e circonscription de l'Essonne et membre de la Commission des finances. Éric Thiers a occupé depuis 1993 divers postes au sein des services de l'Assemblée nationale. Juriste et historien, il est aussi chercheur associé en sciences politiques au Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. Il est membre du comité de rédaction de la revue Pouvoir, dont il a coordonné un numéro publié au printemps 2017 sur la France et ses élites. Il est l'auteur de nombreuses publications et a co-dirigé deux ouvrages sur l'opposition parlementaire et sur la pensée politique de Charles Péguy. Et c'est Éric Thiers qui nous fait connaître le premier ses réflexions sur le sujet de notre rencontre de ce soir.
Merci Jean-Luc de cette introduction et je tenais à vous remercier ainsi que François Heuvé pour m'accueillir pour ce moment de débat. Effectivement, les propos que je vais tenir s'inscrivent directement dans la lignée du travail que nous avons produit dans la revue Pouvoir. Et je profite de ce bref moment qui m'est donné pour indiquer que nous avons aussi sorti au printemps un très intéressant numéro sur le Vatican, auquel je vous renvoie par ailleurs. Je voudrais commencer par une citation de Léon Blum, qui est tirée de l'ouvrage qu'il a écrit en captivité et publié en 1945 à l'échelle humaine. Je le cite. « Toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à la condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas changer, qui n'est capable ni de s'adapter au cours des événements, ni d'employer la force fraîche des générations montantes, est condamnée à disparaître de l'histoire. » Et je pourrais presque m'arrêter là, car finalement tout est dit. Si une classe dirigeante n'a pas de capacité d'action, n'est pas capable de s'adapter à l'événement, de changer et de faire monter ses forces fraîches des générations nouvelle, elle est condamnée à disparaître de l'histoire. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je crois que finalement c'est un peu la question que nous nous posons. Ça peut sembler être le cas, pourtant tout n'est pas si simple. Dans la présentation qui vous a été faite, l'une des questions qui est posée, c'est assiste-t-on à l'avènement d'une nouvelle classe politique? Si on prend le sujet par cette question, je crois qu'on prend aussi le risque de ne pas passer d'une certaine manière aussi à côté de l'enjeu. Car la question est moins celle, je crois, du renouvellement d'une classe politique, de la nécessité ou pas de disposer d'une classe politique. Assiste-t-on non pas à l'avènement d'une nouvelle classe politique, mais à la disparition de ce qu'on peut appeler la classe politique? Et derrière se pose évidemment la question du rapport entre les gouvernants et les gouvernés, et on peut l'aborder de deux manières. Soit l'on considère au nom d'une conception pure ou radicale de la démocratie, c'est selon, que la politique ne doit pas souffrir d'élite, qu'elle doit être une activité, une action menée par les citoyens eux-mêmes sans aucun intermédiaire, sans représentant. Soit l'on peut estimer que les élus, les représentants, s'ils sont indispensables, ne doivent pas se constituer en classe ou en élite fermée sur elle-même. Et je crois que nous sommes aujourd'hui tiraillés par ces deux questions, avec des courants politiques divers, dans un cas, la contestation même de toute idée de représentant ou d'élite, et dans l'autre cas, la contestation de l'idée que les politiques doivent être finalement des professionnels de la politique. Derrière tout cela, il y a l'idée, l'observation d'une société politique qui se serait en quelque sorte séparée du reste du corps social, qui réagirait, qui fonctionnerait selon ses propres codes, selon sa propre culture, et derrière cela, il y a aussi l'idée sous-jacente qu'elle défendrait ses propres intérêts. Ce qui m'intéresse dans le travail qu'on a fourni avec la revue Pouvoir, et dans ce que je vais essayer de développer ici, c'est de comprendre comment l'événement auquel on a assisté au printemps 2017 peut s'inscrire dans quelque chose de plus structurant dans notre rapport à la politique, qui date sans doute de la Révolution française et bien d'avant, et qui met en évidence, finalement, la question même de la République et de sa capacité ou pas à perdurer dans son projet initial. La question est finalement, et je vais reprendre mon travers un peu péguiste, savoir si au printemps on a assisté à un événement au sens péguiste du terme, c'est-à-dire une brusque irruption du réel, qui tout d'un coup nous fait découvrir un certain nombre de vérités beaucoup plus structurantes qui traversent notre société. Je vais développer mon propos en trois temps. Le premier, faire quelques développements sur la notion de classe politique ou de profession politique. Ensuite, essayer de voir quelles sont les grandes perspectives, les rapports ambigus que nous, en France, nous entretenons avec la notion d'élite politique. Et puis, terminer par quelques éléments de problématiques plus contemporaines. L'idée de classe politique, si on doit reprendre ce terme, qui apparaît, je crois, pour l'essentiel à la fin du XIXe siècle, sous la plume notamment de Gaetano Mosca, nous renvoie à deux sentiments. Tout d'abord, qu'il y aurait un monde des dirigeants qui serait clos et auquel il est difficile d'accéder. Et la deuxième chose, c'est que ce monde clos ne défend pas l'intérêt général ou l'intérêt des représentés, mais défend ses propres intérêts. C'est l'idée finalement développée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que dans toute société politique émerge une oligarchie qui détient le pouvoir, quelle que soit d'ailleurs la forme de la société. Alors on retrouve ça chez des auteurs comme Pareto, Mosca ou Michels, qui développent beaucoup cette idée, qui font une critique de la démocratie, ce qu'on appelait l'école élitiste, et à travers l'idée, par exemple, de loi d'airain de l'oligarchie, dans toutes les structures politiques, les partis notamment, se constitue une oligarchie, un petit groupe qui domine un certain nombre, la masse qui est elle-même dominée. Des auteurs comme Max Weber, notamment dans la conférence célèbre qui l'a publiée en 1919, Le savant et la politique, ou la politique comme métier ou comme vocation, montrent bien que tout ça est lié à la démocratisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'ère démocratique, vous avez besoin de structures politiques, les partis, qui doivent se constituer, qui deviennent de véritables machines, et pour les diriger, pour les animer, vous avez besoin de personnel spécialisé dans le fonctionnement de ces machines politiques, de véritables entrepreneurs politiques. Et finalement, il y a un lien qui est établi entre la progression de la démocratie et la professionnalisation du corps politique. La question de la professionnalisation du corps politique, elle peut s'aborder sous deux angles. L'un est un peu plus positif que l'autre. On peut considérer tout d'abord que l'on a besoin de professionnels de la politique parce que la politique suppose une certaine compétence, une certaine technicité. Il faut maîtriser un certain nombre de codes, de techniques pour pouvoir faire correctement de la politique. C'est l'idée que finalement être politique, être un politique, c'est une profession comme être médecin, plombier ou ingénieur. Ça suppose une formation, ça suppose un cursus honorum. Et puis, cette technicité, elle est très particulière, évidemment. C'est la maîtrise, par exemple, des techniques parlementaires, des campagnes électorales ou de la communication. Donc c'est l'idée que la politique n'est pas quelque chose que l'on peut faire en amateur, comme on le faisait un peu au XIXe siècle, mais avec la démocratisation et l'organisation de plus en plus complexe et poussée de la société politique, il faut que des véritables professionnels compétents puissent intervenir. La vision plus négative, c'est que derrière cette professionnalisation de la politique, il y a une fermeture de la société politique sur elle-même, avec un ticket d'entrée dans ce corps séparé qui est élevé, qui est cher, et derrière aussi apparaît l'idée que c'est une société qui se constitue des privilèges, une loi privée, au sens étymologique du terme. Et finalement, on peut comparer ça à un train. Une fois que vous êtes monté dans le train, vous n'en descendez plus, vous vivez dans un monde un peu différent, et pour peu que vous ayez accédé à la première classe, c'est-à-dire que vous occupez les postes les plus importants dans ce corps politique qui vit un peu sur lui-même, vous perdez complètement la connexion avec ce qui fait notre vie quotidienne à tous, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, s'occuper de ses enfants, d'aller faire les courses, les papiers administratifs, etc. Il y a une sorte de vie à part qui apparaît et qui semble caractériser, en tout cas, un certain nombre d'acteurs politiques qui, une fois qu'ils sont dans le train, ne veulent plus en descendre. Mais voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'au printemps dernier, le train s'est brutalement arrêté. Un certain nombre de personnes, et même beaucoup, ont dû en descendre, et se sont retrouvées sans correspondance, et totalement désorientées. Et on en est là. On est un peu sur le quai de gare, à se demander si on va regarder passer les trains, si les gens qui l'ont pris au printemps vont rester dans le train, ou s'il y aura plusieurs stations dans les années à venir. Je crois que l'image est assez... illustre tout à fait la situation où nous sommes. Je crois qu'on ne peut comprendre quand même le bouleversement qui s'est produit au printemps dernier que si on revient un peu en arrière et si on accepte de regarder le rapport ambigu que la société politique française, que la société française en fait, entretient avec les élites. Pour ça, il faut revenir un peu en arrière, et sans doute à la Révolution française, puisque la République est évidemment héritière de cette Révolution, avec l'idée d'égalité qui a structuré très fortement l'idée révolutionnaire. Mais parallèlement, la Révolution française a été aussi, a traduit, en tout cas à son origine, une certaine méfiance vis-à-vis de la démocratie, au sens où tout le peuple pourrait exercer le pouvoir. Je ne vais pas renvoyer à Sieyès et à la distinction assez célèbre entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, mais il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas laisser, c'est la distinction qu'on fera entre citoyens actifs et citoyens passifs, on ne pouvait pas laisser tous les citoyens gérer les affaires publiques et qu'il était nécessaire qu'émerge une élite aristocratique, en quelque sorte, le gouvernement des meilleurs, qui puisse gérer les affaires publiques. Néanmoins, on s'aperçoit que il y a des courants anti-élitistes très puissants qui depuis 1789 traversent notre histoire. Je vais en dire quelques mots. Ils prennent des formes très différentes. Dans le papier que j'ai publié dans ce numéro de Pouvoir, j'ai essayé de faire une sorte de typologie de ces courants qui sont diverses et qui prennent diverses formes au cours de l'histoire. Donc les typologies ont toujours quelque chose d'un peu arbitraire. On peut tout d'abord identifier un courant anti-élitiste de droite, réactionnaire, qui peut être illustré par le mot racisme, qui ne critique pas en soi l'idée d'une élite, mais qui critique l'élite en place au moment de la Troisième République, considérant qu'elle est inadaptée, qu'elle est tout à fait néfaste pour la nation, et qu'elle conduit le pays à la décadence. C'est un courant qui est assez très marginal aujourd'hui, mais qui a eu son importance historiquement. Un courant qui a fait florès et qui continue à jouer aujourd'hui, dont on voit la portée actuellement, c'est le courant populiste, qui doit être distingué du précédent, qui a un rapport aux élites plus complexe. Alors, il a été illustré par le boulangisme, le poujadisme, et d'une certaine manière, aujourd'hui, il continue à s'illustrer sur la partie très à droite de l'échiquier politique. Et pas seulement. C'est l'idée que la démocratie, finalement, serait toujours trahie par les élites, qui confisquerait la souveraineté, et ces élites sont souvent identifiées sous des formes archétypales, sont des archétypes, des caricatures, des fantasmes. Ce sont les riches, les intellectuels, les parisiens, les technocrates, les mondialisés, les juifs, les déracinés, les pourris. Il y a là une sorte de figure fantasmatique qui est sans cesse projetée dans le débat politique et qui sert un anti-élitisme très, très puissant pour ces courants politiques. Évidemment, l'anti-parlementarisme est toujours assez central dans ce discours. Et on oppose aux parlementaires, cette espèce de masse informe que seraient les parlementaires, la figure du sauveur politique, qui, lui, est en connexion directe avec le peuple. Toute l'ambiguïté de ces mouvements, c'est qu'ils ne définissent jamais clairement ce qu'est le peuple. En fait, ils donnent une image du peuple qu'eux-mêmes souhaitent. C'est-à-dire que c'est une image monolithique du peuple, très fantasmée, très construite, mais qui ne correspond pas du tout au caractère pluriel, compliqué, divers du peuple, tel qu'il est en réalité. Donc là, on a une rhétorique anti-élitiste très puissante, qu'on ne trouve pas seulement à droite. Si je devais renvoyer aux travaux qu'a publié Pierre Birnbaum il y a déjà quelques années, qui s'appelait « Jeunesse du populisme, le peuple et les gros », il montre très bien aussi que, par exemple, Maurice Thorez, dans les années 30, développe tout ce discours autour des 200 familles, qui est un discours très, très anti-élitiste, et on voit les linéaments de ce discours transparaître dans des périodes très contemporaines. Je pense même à la manière dont François Hollande déclarait sa haine des riches, ou dont Jacques Chirac a fait campagne en 1995, où j'avais noté l'intervention de Nicolas Sarkozy lors des primaires en 2016, je le cite, qui dénonçait le petit Paris mondain. Il voulait défendre la majorité silencieuse, la France de la vie réelle, en appelant à la résurrection du peuple français. Donc c'est un discours extrêmement récurrent dans notre vie politique, qui a des racines historiques très profondes et qui continue aujourd'hui à fonctionner à plein. Et puis vous avez un autre courant, aussi anti-élitiste, mais qui ne fonctionne pas avec les mêmes ressorts. C'est le courant que j'ai appelé démocratique révolutionnaire. C'est celui qui se fonde sur l'héritage initial de la Révolution française, qui veut absolument maintenir l'idéal d'égalité et en finir avec tout type de privilèges et de privilèges. Et le grand moment, c'est évidemment la nuit du 4 août. Alors, Tocqueville a très bien montré que dans l'Ancien Régime et la Révolution, qu'il y avait cette appétence, cet appétit des Français, de la société française pour l'égalité, et il montre qu'il y a une forme psychologique presque particulière à notre société, avec comme il l'observe, ces misérables prérogatives remplissaient d'envie ceux qui en étaient privés, et du plus égoïste orgueil ceux qui les possédaient. Donc derrière ce désir d'égalité, il y a une forme de jalousie un peu sociale qui fait que, qui conduit à développer un anti-élitisme assez, assez puissant. On trouve là aussi un vieux fond de contestation de la démocratie représentative. C'est ce que François Furet appelait la critique obsessive de la démocratie au nom de la démocratie. C'est-à-dire le refus de la représentation politique, avec l'idée qu'au nom de l'égalité, au nom du fait que les citoyens doivent eux-mêmes exercer le pouvoir, on critique tout corps politique constitué pour diriger les affaires publiques. On retrouve cela finalement dans des discours aujourd'hui à gauche, sur la gauche de l'échiquier politique. Et on retrouve ça aussi dans toute une littérature qui est très intéressante d'ailleurs, sur ce que doit être la démocratie participative ou démocratie réelle, qui est qui met en jeu, met en question la démocratie représentative, en appel à des mécanismes qui sont très intéressants d'ailleurs, comme le tirage au sort, comme des conférences de citoyens. Ce sont des thèmes qui étaient apparus, je me souviens, en 2007, lors de la campagne présidentielle, Ségolène Royal les avait mis en avant. À l'époque, on regardait ça comme des objets curieux, mais maintenant, ce sont des choses qui sont un peu plus pratiquées et qui sont vraiment dans le débat et qui méritent beaucoup d'attention. En tout cas, on trouve dans ces mouvements une critique assez forte de l'idée qu'il faudrait des dirigeants politiques qui prennent en main les affaires de la cité. Face à tous ces mouvements anti-élitistes qui structurent un peu notre histoire politique, la République a essayé de faire une synthèse. Et c'est la grande difficulté dans laquelle elle se trouve et en même temps sa force extraordinaire. Elle a essayé de faire une synthèse entre cet idéal égalitaire, démocratique pure, en quelque sorte, et l'idée qu'il fallait voir émerger une élite républicaine qui était capable d'agir au nom des citoyens, de rendre compte. Et c'est tout le discours qu'on a vu sous la Troisième République, qui est un grand moment en la matière, autour de l'idée de méritocratie républicaine. On résout le problème, en quelque sorte, cette tension permanente entre cette aspiration à l'égalité, à la démocratie pure, et cette nécessité de faire émerger une élite, par la question de l'éducation et par la question de la sélection des élites. Par quels moyens arrive-t-on à les sélectionner? Et la Troisième République avait mis en avant les écoles, les grandes écoles de la République. Alors, on a Polytechnique, Normale Sup à l'époque, et puis depuis 1945, l'École nationale d'administration, qui avait un peu aussi cette vocation. Ce faisant, la République essaye de résoudre la quadrature du cercle, de faire une synthèse, et je crois que cette synthèse, elle ne fonctionne qu'à trois conditions. La première des conditions pour que l'élite soit acceptée dans la République, c'est que chacun ait la possibilité à un moment d'en faire partie. Donc c'est l'idée que l'élite politique, en tout cas ceux qui dirigent les affaires publiques, doivent être ouverts au renouvellement. Et ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette élite soit efficace. Et ça, c'est absolument essentiel. Et la troisième condition, c'est qu'elle soit morale, d'une certaine manière. Et ce que l'on peut dire, c'est que sans doute, au printemps 2017, on a fait le constat de l'échec de ces trois conditions. En tout cas, ces trois conditions n'étaient pas remplies. À ce moment-là, peut-être était-ce en partie injuste, peut-être était-ce en partie justifié. En tout cas, le corps électoral, les citoyens ont estimé que ces trois conditions n'étaient pas remplies. Ouverture, efficacité, morale. Alors, quelques perspectives contemporaines, très rapidement, pour terminer. Où est-ce qu'on en est, en quelque sorte? Je crois qu'il faut distinguer les effets de structure et les effets de contexte. Les effets de structure, c'est un mouvement général dans toutes les sociétés. La France n'est pas un cas isolé. D'un rapport très nouveau à l'autorité et à la chose politique. Évidemment, le système républicain fonctionnait très bien lorsqu'on avait un rapport à l'autorité politique, une certaine idée de la hiérarchie sociale qui était acceptée, et on acceptait d'être gouverné parce qu'on estimait les gouvernants légitimes à le faire. Le rapport aujourd'hui qu'on a à l'autorité est tout à fait différent, et je pense que cela va continuer, que cette espèce de verticalité est beaucoup plus difficile à gérer pour les dirigeants politiques. C'est l'idée aussi de ce que j'ai appelé dans un autre papier paru dans un autre numéro de la revue Pouvoir sur la désobéissance civile, de l'apparition de ce que j'ai appelé l'égo-démocrate entre Narcisse et Antigone. C'est-à-dire ce citoyen qui finalement estime qu'il est la mesure de toute chose, que son opinion vaut l'opinion de tous, même si elle n'est pas particulièrement éclairée, même si elle n'est pas particulièrement experte, et le fait que chacun, dans son coin, s'estime être aussi légitime à intervenir sur un sujet qu'une personne qui a la compétence, qui a travaillé sur ces questions, rend très difficile la capacité à instaurer un dialogue, un débat dont la démocratie a besoin. Et c'est cette difficulté, souvent, à laquelle on est confronté dans une société qui fonctionne beaucoup aussi sur les émotions, une société sensible. Et je ne manque jamais de citer cette phrase de Bernanos qui dit que l'homme, et on pourrait dire l'homme moderne, pour reprendre un terme péguiste, a le cœur dur et la tripe sensible. Et c'est très difficile d'organiser des débats rationnels, démocratiques, politiques, en fait, lorsqu'on est face à ce type de choses. Deuxième point, le rôle des médias. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais c'est vrai que cette espèce de nervosité démocratique que les médias instaurent et qui soumettent les politiques à un agenda complexe, cette espèce de culte du couac parlementaire, je veux dire, il ne peut pas y avoir la moindre divergence entre une majorité, madame la députée, je pense en dira plus, entre la majorité et le gouvernement. Je ne parle pas de divergence, je parle simplement de ce qui se passe dans une démocratie, c'est-à-dire une discussion. L'opposition de point de vue. On parle tout de suite de couac, ça devient une sorte de catastrophe, la République est en danger, alors que ça devrait être dans le moindre système politique tout à fait normal. Les aspects positifs, enfin, on a affaire aussi à une société qui a pris conscience d'elle-même, et ça c'est très important, c'est un aspect extrêmement positif auquel on doit être confronté. Je voulais parler des partis politiques aussi, qui est un point essentiel, peut-être qu'on y reviendra lors de la discussion, parce que leur crise et leur renouveau est effectivement l'une des conditions pour que on arrive à faire évoluer les pratiques politiques. Et enfin, je voudrais terminer en disant que le renouvellement, plus que le renouvellement de la classe politique, finalement c'est le renouvellement de la politique qui est en jeu, c'est-à-dire la capacité à agir dans le réel et à être finalement dans le réel. Merci.
Merci Éric Thiers pour cette première intervention dans ce mardi d'éthique publique consacré ce soir au thème de la nouvelle classe politique, réalité et faux semblants. Éric Thiers, donc, qui, après avoir occupé divers postes au sein des services de l'Assemblée nationale, est également juriste, historien et chercheur associé au Centre d'études de la vie politique française. Et après Éric, nous passons à une praticienne de cette vie politique, puisque nous allons maintenant entendre Amélie de Montchalin, qui est députée La République en marche de la 6e circonscription de l'Essonne, cela depuis le 18 juin dernier, où vous avez été élue députée, et vous êtes membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Merci aussi, Éric, pour ce panorama qui nous replace dans une réalité qui a déjà une longue histoire, on va dire. Alors moi, mon propos est assez complémentaire puisqu'il ne s'inspirera que de peu, voire de pas d'auteurs ou de penseurs, mais plus de la réalité qui est la mienne et de celle de mes collègues députés En Marche, ou La République En Marche, puisque ce que nous vivons nous fait aussi réfléchir au monde dans lequel on est entré et au mouvement qu'on représente. Alors, je vais commencer d'abord par ce que je pense est en train de changer ou ce qui change, et un point sur ce qui ne change pas. Et je vous parlerai aussi de mes joies, parce que je pense qu'il est important d'observer ce qu'on fait, ce qu'on est, et puis aussi de parler de ce qu'on vit. Alors, dans ce qui change, et là je parle vraiment pour le mouvement En Marche et les fameux 313 nouveaux députés qui sont apparus, comme ça, comme certains nous disent, sortis de nulle part. Je pense qu'il y a cinq sujets sur lesquels je pense qu'on est un peu peut-être différents. D'abord, c'est ce que j'appelle notre chemin. Alors, sans aucune référence biblique, au fond, on a été un peu désappelés et déchoisis, en toute humilité. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, le moment où on s'est dit « Tiens, peut-être que je pourrais être candidate à quelque chose » ou « candidat à quelque chose », c'est quand le candidat à l'époque Macron, en janvier 2017, lance un appel aux candidats en disant « Je vais peut-être avoir besoin ou nous aurons besoin d'avoir des députés En Marche ». Et puis ensuite, il y a eu la fameuse commission d'investiture qui a reçu 19 000 dossiers et a envoyé en campagne ensuite un peu plus de 500 députés. Un candidat, puis 310 députés. Ce chemin, il est extrêmement différent de ce que beaucoup de mes prédécesseurs députés avaient eu à vivre, qui consistait en une série assez longue d'années de combats électoraux successifs à l'échelle croissante. On commençait souvent par être d'abord conseiller municipal, puis conseiller général, puis conseiller régional. Puis peut-être on avait le droit de se présenter à une élection législative. Et puis enfin, on arrivait à l'Assemblée et puis le Graal, on était sénateur. Ce chemin, pour beaucoup d'entre nous, ne l'avons pas vécu. Et moi, je ne l'ai pas vécu du tout. Et donc ça change, je pense, aussi la façon dont est née arrivée au Palais Bourbon. Notre deuxième point, à mon avis, différent, c'est ce que j'appelle nos convictions. Alors, tous ces termes sont des termes un peu conceptuels, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre au pied de la lettre. Mais il y a une part de nous qui dit qu'on est des convaincus. Je m'explique. Pour beaucoup d'entre nous, on a rejoint le mouvement En Marche avant même d'imaginer qu'il y aurait un jour des députés En Marche et avant même d'imaginer que nous serions candidats. Moi, j'ai rejoint En Marche plutôt vers Noël, à l'époque. Emmanuel Macron était une bulle. Et le mouvement En Marche était un mouvement de bobos, enfin, je vous dis ce que la presse disait, hein, de bobos qui n'arriveraient jamais à parler à tous les Français et que c'était des gens sûrement pleins d'intellectualisme, mais que vraiment, ils n'étaient pas dans les réalités concrètes. Et ce qui veut dire que quand on a rejoint le mouvement, on s'est attaché à un programme, à une méthode, à un candidat, il faut bien le dire, et c'était au fond notre feuille de route. Et qu'effectivement, notre feuille de route, c'était les objectifs politiques qu'on poursuivait ensemble, et pas un corpus idéologique extrêmement structuré qui a fait dire à beaucoup qu'on n'était nulle part, puisque ni de droite, ni de gauche, ni autoritaire, ni horizontaux. Mais donc, ce qui veut dire que nos convictions ont été forgées autour d'un objectif et pas forcément, j'allais dire, d'une idéologie. Et ça, je pense, ça nous rend assez collectivement différents et individuellement dans des démarches assez différentes de ce qui a pu être le cas dans d'autres moments de l'histoire, dans d'autres parties. Le troisième point, à mon avis, différent, c'est nos attentes. Je pense qu'on se sent tous un peu en mission. C'est-à-dire qu'on a laissé derrière nous des vies remplies, bien remplies, où nous faisions souvent complètement autre chose, pour ne pas dire toujours complètement autre chose, puisque sur les 313 députés En Marche, vous n'aviez que 27 anciens députés. Nous nous sentons, je pense, tous au service du coup de cette mission, et nous savons avec une certaine humilité que notre mouvement est apparu très vite et qu'il ne pourra rester au fond que s'il produit quelque chose. C'est-à-dire que personnellement, 4 mois, je suis devenue une candidate à la candidature, puis une candidate, puis une députée. Je suis assez lucide sur le fait que tout ça peut faire machine arrière relativement vite aussi. Alors, pas forcément dans le quinquennat, il faudrait qu'il y ait une dissolution, mais dans 5 ans, je ne me sens absolument pas certaine de ce que sera ni En Marche, ni ce que je serai, ni ce qu'aura été ce gouvernement. Ce qui veut dire aussi qu'on a un attachement du coup très clair à nos objectifs. On sait que si on ne produit pas de résultats, au fond, nous sommes dans un exercice collectif, une mission. Voilà, comme quand on est dans une entreprise, on a un projet, on a des objectifs, et ben on va essayer de faire que ça marche. C'est un mot qu'on aime bien, le mot marche. Mais on sait que c'est ça qui nous tient, au fond. La quatrième différence, je parle vraiment avec une certaine humilité, j'essaie juste d'être descriptive. C'est qu'au fond, ce mouvement En Marche, il est né d'une certaine envie collective, alors je l'ai écrit avec des mots un peu compliqués, mais de tenir la complexité comme point de départ. Le « en même temps » d'Emmanuel Macron, je pense qu'il est assez révélateur de ce que disait Eric sur un peu l'hystérie médiatique qui fait qu'on ne peut jamais avoir de débat, et que tout est toujours ou noir ou blanc. Là, je sors d'Europe 1, vous pourrez, si ça vous intéresse, écouter ce que je viens de dire. Mais on me dit, oui, voilà, le couac, alors il y a des divergences, vous êtes pour, vous êtes contre. Et alors j'ai dit, d'abord, ce n'est pas un couac, deuxièmement, ce n'est pas un scoop, et je ne suis ni pour ni contre, je suis dans l'efficacité. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on cherche à faire. Et après, vous me direz si je suis pour ou contre ce que dit monsieur Intel, etc. Et donc, le en même temps, c'est quand même l'idée d'avoir envie d'un débat qui soit le plus informé possible. Richard Ferrand, donc, qui est notre président de groupe, a dit quelque chose, moi, qui me trotte dans la tête, qui veut dire nous ne sommes pas ici pour avoir des opinions, nous sommes ici pour avoir des convictions. Et donc, si vous parlez parce que vous avez une opinion, eh bien, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas comme ça qu'on va réfléchir ensemble. Pour avoir un débat, il faut que ce débat ait été informé, qu'il y ait des idées, qu'il y ait des faits, qu'il y ait des chiffres. Et puis, si sur ce dernier débat, on ne peut pas avoir des faits et des chiffres, il faut qu'il y ait une maturation intellectuelle. Et je pense que ça donne à notre groupe parlementaire un peu de complexité de gestion, parce que quand vous avez 313 personnes qui ont très envie de débattre, eh ben elles ont envie de débattre. Ça nous donne aussi une certaine liberté personnelle, de dire on sait qu'on est là pour apporter un bout de la pièce qui fera qu'à la fin on prendra une décision, si possible, équilibrée. Et c'est pour ça que j'espère, et ce que j'essaye moi d'animer à la Commission des Finances, parce que je suis responsable de l'animation des 38 députés de la Commission des Finances, c'est d'arriver à vraiment faire étendre et vivre ce débat, de comprendre comment chacun apporte une pièce factuelle à la décision, et puis une fois que la décision est prise, de remettre tout le monde à converger sur l'objectif qu'on poursuit. Bon, c'est assez conceptuel, je pourrais vous en parler en détail sur des sujets qui font l'actualité, la une des journaux. Et puis, cinquième point, c'est notre démographie. Quand même, quand on se regarde, on est quand même plus de femmes, on est aussi beaucoup plus de parents de jeunes enfants, et puis on est plus ce que j'appelle de professionnels d'une autre vie. Moi, j'ai été économiste, j'ai fait la stratégie d'entreprise, d'autres étaient directeurs d'école, d'autres enfin avaient leurs entreprises. Et je pense que c'est une sociologie qui apporte des choses très intéressantes au débat, puisque c'est ça qui nous anime. Ça perturbe quand même un peu les médias et ça perturbe un peu aussi le fonctionnement de l'Assemblée. Parce que chacun à tout moment se demande comment je contribue. moi et mon expérience, comment je la porte dans le débat. Mais je pense que c'est un changement assez important. Donc voilà, notre chemin, nos convictions, nos attentes, notre envie de tenir la complexité, notre démographie. Après, je vais être aussi un peu... Alors, je n'ai que 4 mois maintenant, presque 3 mois et demi d'expérience, mais il y a des choses qui ne changent pas. D'abord, quand on est député, on est un rouage. C'est-à-dire que notre mission première, c'est de permettre l'action du gouvernement. Mais ça interroge, du coup, tous les matins, de se demander quelle est notre action à nous. Parce que nous, on ne fait rien. On permet à d'autres de faire. Et du coup, ça interroge. Est-ce que mon action n'est que de permettre à d'autres de faire ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Et donc, cette distance à l'action, elle est pour beaucoup d'entre nous assez perturbante, parce que dans nos métiers d'avant, on était dans l'action. Dans l'action directe, on avait prise sur les choses. Là, ce côté rouage, à la fois dans les institutions et par rapport au gouvernement, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne change pas juste parce que tout ce que je viens de vous dire avait changé. La deuxième chose, et mon départ à 20h30 ne fait que le confirmer, c'est que le rythme de travail, qui est celui d'un député qui doit faire voter un texte, pose quand même question avec sa capacité à rester, comme on dit, proche du terrain. Alors, proche du terrain, c'est un mot très médiatique. Est-ce que vous êtes proche du terrain ? La question, c'est quand même comment, avec le rythme de travail et la machine parlementaire, on arrive à ne pas s'isoler. Je vous invite tous un jour à aller visiter le Palais Bourbon. C'est magnifique. Mais en fait, c'est une petite ville où on peut vivre un peu hors du temps. Une anecdote, c'est que quand vous êtes dans l'hémicycle, la lumière ne change pas. Donc, et il y a un système très moderne qui vous donne l'impression d'avoir une lumière assez ensoleillée. Donc quand vous arrivez à 14h, vous dites « Quelle belle journée, c'est formidable, je suis heureuse d'être là ». Quand c'est la même lumière et qu'il est 2h du matin, vous devenez un peu dingue. Donc la question, c'est rester proche du terrain, pour moi ça veut dire deux choses. C'est comment on s'extrait du rythme par moment, comment on arrive à faire un vrai effort de pédagogie de l'action, c'est-à-dire à quoi ça sert que je reste jusqu'à 2h du matin dans l'hémicycle, qu'est-ce que j'essaye de défendre, et de savoir toujours et quand même écouter des messages souvent critiques, mais pas toujours, de ceux qui nous ont élus, et de comprendre que dans la critique, il y a ce qui fait avancer et ce qui détruit la motivation. Donc il y a des gens qui vous injurient, qui sont dans l'injure, et cela, je pense qu'il faut plutôt s'en préserver, mais vous avez aussi des gens qui vous disent des choses qui sont très pertinentes et qu'il faut écouter. Et vu la machine dans laquelle on est, c'est parfois difficile. Autre chose qui ne change pas, c'est que nous ne sommes pas, et je le reconnais, l'assemblée un peu mythique, miroir de la société. Il y a eu des articles dans les journaux disant « mais il n'y a pas de boulanger à l'assemblée, il n'y a pas de mécanicien à l'assemblée, etc. » Bon, il faut quand même être lucide. Le mandat dans lequel on se lance est extrêmement insécurisant. Alors, il y a eu des dispositions de loi qui permettent aux salariés de se mettre en disponibilité de leurs emplois pour un mandat et pouvoir revenir dans leur emploi. Bon, personnellement, moi, il m'a été demandé, et vu mes fonctions d'avant, je pense que c'était sain que je coupe tous mes liens avec mon ancien employeur, un grand assureur français. J'en suis ravie, mais ça demande quand même une prise de risque, vu l'insécurité de la vie politique qu'on connaît, qui est quand même quelque chose qui n'est pas, à mon avis, aujourd'hui complètement mûr pour que tout un chacun se dise « tiens, je vais me présenter à une élection ». Il y a une vraie réflexion à faire là-dessus si on veut effectivement, comme le disait Eric, ouvrir ce qu'est la classe politique. J'observe aussi que la complexité du processus dans lequel on nous fait travailler demanderait une formation beaucoup plus poussée que ce qu'on apprend ou quand on fait des études de sciences politiques. Enfin, c'est une formation, on va dire, pratique de qu'est-ce que ça veut dire d'être parlementaire, comment ça marche. Alors, on se forme. Mais le règlement de l'Assemblée nationale demanderait, à mon avis, un travail d'accompagnement beaucoup plus fort pour qu'un boulanger, un jour, puisse être pleinement député. Et pas juste être sur la photo. Parce qu'on peut aussi imaginer d'amener des gens qu'on ne formerait pas pour donner un signal qui ne serait absolument pas intéressant. Et puis on se rend compte aussi que voilà, il y a un vrai travail législatif qui n'est pas que le débat. Une anecdote pour vous, c'est que des députés de la France Insoumise, ils sont extrêmement bons, je trouve, quand ils ont un micro ou qu'ils sont sur un plateau de télévision. Ils ont une très bonne rhétorique et ils savent planter les arguments de manière extrêmement efficace. Il en reste que ce ne sont pas des gens avec qui il est facile de débattre. Moi, j'ai eu des expériences où ils parlent, je parle, et puis on se retrouve à la sortie. Et en fait, le débat ne prend pas. Ce qui veut dire que le travail législatif, ce n'est pas juste le débat, c'est ensuite, on a parlé, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que l'organisation de notre travail n'est pas fait pour ça. Et donc, pour venir à ce processus parlementaire, pour l'instant, il n'a pas changé. Notre président de l'Assemblée a envie de faire beaucoup de réformes et je pense que c'est extrêmement sain. Mais quand je regarde un peu ce qui a été ma vie dans l'hémicycle, il y a quand même plein de moments où on parle sans se parler, on parle sans écouter la réponse. Et ça crée une forme un peu déstabilisante de superficialité. J'espère que vous n'avez pas regardé les questions au gouvernement aujourd'hui, qui était un grand moment où globalement des gens posent des questions, les ministres répondent et ils n'arrivent même pas à se faire entendre. Alors ça ne vient pas de nos rangs, je vous rassure, mais cette superficialité de l'échange, pour l'instant, elle n'a pas changé. En tout cas, elle n'a pas changé dans les moments qui sont visibles et qui sont symboliques de notre travail. Je pense qu'elle a changé dans notre relation avec les ministres, elle a changé dans notre relation entre nous, elle change avec notre relation avec le Conseil d'État est ravi, on découvre qu'il y a des parlementaires qui viennent nous parler en direct. Donc, je pense qu'on est en train, sans s'en rendre compte, de casser beaucoup de silos. Mais quand on est au Palais Bourbon, dans l'hémicycle, sur nos petits fauteuils rouges, je pense qu'on n'a pas encore tout changé. Et puis, il y a une certaine violence des débats, parce que c'est si difficile de faire bouger les lignes, que pour se rassurer, assez vite, on peut, à mon avis, tomber dans l'orgueil, ce que j'appelle l'autosatisfaction et l'autocertitude. Si on veut rester humble par rapport à la mission, qui est de faire de bonnes réformes et de conduire avec équilibre des politiques qui nous emmènent vers des objectifs qu'on a présentés dans notre fameux programme, c'est tellement dur à défendre que je peux comprendre qu'après, je ne sais pas s'il faut dire 5, mais... J'espère, au bout de plus de temps que seront mes mandats ou mon mandat, on devienne un peu sourd, en fait. Vous vous en prenez, en gros, tellement plein la figure que vous êtes tellement certain qu'il faut faire une réforme qu'assez vite, vous vous dites, j'écoute plus. Et vous devenez assez violent vous-même, je pense. Alors, je pense pas qu'on l'observe dans les rangs de La République En Marche encore. J'espère qu'on s'épargnera de ça. Mais je sens que c'est un risque qui, structurellement, existe. Bon, après ces choses, je voulais vous parler, moi, de, si j'ai le temps, si j'ai 3 minutes, de 3 joies qui me disent quand même que c'est une belle expérience. La première, c'est que dans ma circonscription, donc l'Essonne, Massy, Palaiseau, Chimazarin, Igny, Vissou et Morangis, pour toutes les cités, 6 communes au sud de Paris, sur le terrain, le député a un rôle extrêmement intéressant puisqu'il n'a aucun budget, aucune équipe, mais il a un pouvoir, c'est qu'il peut faire que les gens se parlent et lui parlent. Donc on peut être des facilitateurs et des ascenseurs, comme j'ai toujours dans le millefeuille, de gouvernance, de rôle, de syndicat, de président à n'en plus finir, de plein de choses. Et l'autre rôle qu'on a au-delà d'être facilitateur, c'est qu'on peut donner à voir l'invisible. Parce qu'on a une forme de curiosité, en tout cas nous, nouvellement élus, on n'est pas naïfs, mais on est assez curieux de comprendre comment des systèmes aussi complexes ont pu être mis en place et peuvent du coup aboutir à des résultats aussi lointains de ce qu'ils ont a priori comme vocation. À Chimazarin, vous avez 150 enfants qui sont logés dans des hôtels sociaux. Un hôtel social, c'est un hôtel où l'État paye en fait toutes les chambres. Et ces 150 enfants sont avec leurs parents, donc ça fait presque 400 personnes, qui ne vont pas à l'école. Et tout le monde est extrêmement bien intentionné. Vous savez, la préfecture, etc. Sauf que ces gens-là, personne ne savait qu'ils étaient là. Alors moi, petite députée, j'ai vu ça pendant ma campagne, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est très bizarre quand même. Et donc voilà, j'ai ma petite mission locale où j'essaye de faire que les gens se parlent. Donc hier, la préfète est venue avec moi, avec un certain nombre d'acteurs locaux, pour ce que je leur dis, voilà, je pense que là, vous avez tous fait tous les bouts de votre processus, mais voilà ce que ça produit à la fin. Je dis pas qu'on a trouvé la solution, mais je trouve que c'est un rôle intéressant et ça rend un peu de sens à ce qu'on fait. Si on parle de la fabrique du budget, donc ce que vous voyez dans les journaux en ce moment... Moi, ce qui me motive et qui me rend heureuse de mon rôle, c'est comment on passe de la technique budgétaire aux mots, à la pédagogie qui donne un cap. À quoi ça sert d'avoir un budget ? Pourquoi on en parle autant dans les journaux ? Quels sont les vrais choix, les vrais arbitrages, les vraies décisions qui sous-tendent ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi non, c'est pas juste la droite, la gauche, les riches, les pauvres ? C'est pas ça le débat. Comment on remet du sens dans ce qu'on fait ? Et ça, ça me rend pleine d'énergie. Et puis je vais finir parce que j'ai 3 enfants qui donc ce soir sont avec leur papa. Ils ont 6 ans, 4 ans et 4 ans.
Et on a eu cet été une discussion assez étonnante, mais que j'ai un peu provoquée, pour que je leur parle un peu de mon métier nouveau. Donc, j'aurais demandé quelles étaient les lois. Donc, on a expliqué ce qu'était qu'une loi, etc. Et je leur ai demandé quelles étaient les lois importantes qu'ils voudraient que je vote. Et bon, et du haut de leurs mots d'enfant, on s'est dit plein de choses sur respecter autrui, ce qui était interdit, ce qui était permis. Et en fait, en les écoutant, je me suis dit, voilà, ce qui est beau dans mon métier ou dans ma mission, c'est qu'au fond, quand j'en parle avec mes enfants, je sens que j'essaye quand même de travailler pour la société, pour autres que moi et pour eux au fond. Et que penser que du coup, on travaille pour autres que soi, c'est une belle finalité, ça donne beaucoup d'énergie, et ça pose aussi beaucoup de questions sur le sens, qui est voilà, comment je décide aussi des choses qui concernent autres que moi. Merci.
Merci donc, merci Amélie Montchalin. Je vous rappelle que vous êtes députée de La République En Marche et membre de la Commission des Finances. Merci de cette intervention dans ce débat de ce soir consacré à la renouvellement, les nouvelles classes politiques. Peut-être quelques minutes avant de laisser la parole à l'Assemblée pour un temps de questions. Je me retourne vers Éric Thiers. Si l'intervention d'Amélie Montchalin a apporté de l'eau à votre moulin, vous a apporté des éléments qui enrichissent votre réflexion dans la ligne de ce que vous nous avez présenté.
Moi, je trouve toujours passionnant quand un parlementaire parle non pas de son métier, mais de sa fonction, de ses missions. Parce que, contrairement à l'idée reçue, on considère que les parlementaires font partie finalement d'une institution qui serait un peu croupion, qui serait une chambre d'enregistrement, on entend toujours ça. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on entend dans les médias, le Parlement n'a pas assez de pouvoir, etc. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais le Parlement, il a beaucoup de fonctions. Il a une fonction législative, une fonction de contrôle, une fonction de représentation. Et entendre la manière dont une jeune parlementaire perçoit son action, la nécessité de son action et les objectifs qu'elle se donne finalement, montre à quel point c'est une fonction noble, mais une fonction si difficile à remplir. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement le rythme auquel sont confrontés les parlementaires, parce qu'on sait bien que dans la vie politique, tout va très vite. 5 ans, c'est très court. Il faut lancer les réformes dès le début d'un quinquennat pour espérer en voir aboutir les fruits. Et les parlementaires sont complètement pressés par le temps, par la multitude des fonctions qu'ils ont à remplir. Je trouve que c'est très intéressant que les députés puissent de cette manière expliquer ce qu'est la réalité de leur fonction. Un autre point qui me frappe beaucoup, c'est l'idée que des parlementaires aient pu avoir avant une autre vie. On a parlé à une certaine époque de la République des professeurs, ensuite de la République des énarques, de la République des apparatchiks, et aujourd'hui on parle de la République en marche. Et la question de savoir si les parlementaires doivent suivre ce cursus qui a été décrit tout à l'heure, ou si au contraire ils peuvent d'un coup arriver dans la vie politique, comme ça, de manière spontanée, de manière très fraîche, avec leur autre vie derrière eux, me semble absolument essentiel. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est vous avez montré comment le Parlement est un objet complexe. Il est très difficile de l'appréhender d'un seul coup d'œil. Le Parlement, il est au centre d'une multitude de choses. Il est au cœur des institutions, il est en relation avec le gouvernement, avec d'autres organes comme la Cour des comptes, le Conseil d'État, il y a des aspects européens, le Parlement s'est fait une multitude d'individualités. C'est un objet complexe qui est difficile d'appréhender comme ça, de manière univoque, de manière simpliste, caricaturale, et c'est pour ça qu'il faut toujours y prêter beaucoup d'attention et peut-être regarder au cas par cas, dossier par dossier, quel travail est fait par les parlementaires pour essayer de faire progresser un certain nombre de textes ou de choses.
Amélie de Montchalin, Éric Thiers évoquait la République des professeurs ou la République des apparatchiks, la République en marche. D'accord, elle est en marche, mais c'est la République de qui? J'évoquais tout à l'heure ce changement, ce glissement très important qui fait que les origines professionnelles et sociales des nouveaux députés changent de façon assez importante, voire très importante, par rapport à ce qu'était la composition de l'Assemblée précédente.
Alors, je n'ai pas fait un sondage méthodique, statistique et économétrique, mais je pense qu'on a deux grands types, en fait, de... de députés. On a beaucoup de cadres d'entreprises, donc voilà, et on a beaucoup d'entrepreneurs, donc des gens qui avaient leur propre entreprise. Je pense que c'est les deux. Alors après, il y a des gens qui ont fait plein d'autres choses, mais en fait, dans les deux cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous eu à gérer des équipes. Et on a tous fait, en fait, un peu de ressources humaines, un peu de ce qu'on appelle de management, un peu d'animation. Et on a tous eu à gérer des collectifs. Et ça, je pense que c'est assez différent de ce qu'était la sociologie avant d'un professeur. Un professeur, il n'a pas d'équipe, il n'a pas. Et donc, on a tous été assez troublés au départ sur comment on organise notre travail, qui sont nos équipes. Donc, c'est pas avec, je ne vais pas vous cacher, de l'enveloppe de collaborateurs que nous donne gentiment l'Assemblée qu'on va créer des équipes qui sont à l'image de ce qu'on avait avant autour de nous. En termes de compétences, de nombre, de soutien dans le travail qu'on aimerait avoir. Et donc, il a fallu tous qu'on recrée un peu nos réseaux. Qui sont les gens qui nous aident à travailler, à être bons, à être pertinents. Et donc, je pense qu'une partie de la nouvelle relation qu'on entretient, notamment avec les cabinets des ministres, avec les administrations, viennent de là. On s'est retrouvés tous dans des bureaux. On avait, en gros, une assistante qui gère nos agendas et quelqu'un qui nous aide à suivre juste le travail parlementaire. C'est ça, le modèle. Et puis, quelqu'un en circonscription, en gros. Ben, quand vous voyez la masse de travail sur laquelle vous voulez être pertinent, vous dites, bon, à moi tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc, on travaille beaucoup plus en réseau. Donc, on a des alliés, des gens qui nous alimentent, des gens externes qu'on écoute, qui ne sont pas forcément du coup des lobbies, mais plus des experts. Et on est tous en train de développer un peu ce type de réseau.
Éric Thiers, une réaction.
Il y a un point aussi qui me frappe, c'est qu'il y a un effet de génération. C'est-à-dire que cette Assemblée, j'avais lu un chiffre, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, qu'il y avait plus de 100 députés qui avaient entre 25 et 35 ans.
Bah, nous, en marche, notre moyenne d'âge, c'est 42 ans. Et il y a peu, en fait, la masse des quadras est assez faible. Donc, il y a quand même beaucoup de trentenaires et beaucoup de gens qui ont plutôt 45-55 ans.
Et ça, c'est un impact direct sur la manière de travailler, la manière d'aborder la façon d'agir comme parlementaire, parce que cette mise en réseau elle est importante. Il y a aussi l'usage des nouvelles technologies. On a beaucoup parlé dans la presse de la manière qu'avaient les députés de communiquer via des réseaux, etc. Et donc ça a un impact aussi sur le fonctionnement d'une maison, le Palais Bourbon, l'espèce, qui avait ses habitudes, qui fonctionne beaucoup sur les usages. Le droit parlementaire est un droit très peu écrit, qui fonctionne sur les codes et les usages. Et c'est un peu ce choc des cultures qui est apparu en juin dernier, où vous aviez des vieilles traditions, des usages, qui ne sont pas forcément mauvais, parce que c'est aussi ça qui permet à la procédure de bien fonctionner. Et la procédure, c'est quand même, d'une certaine manière, une certaine garantie du bon fonctionnement et de la liberté parlementaire. Mais vous aviez aussi une nouvelle génération de députés qui étaient sans doute plus directs, plus réactifs, et qui devaient aussi appréhender ces nouveaux codes.
Eh bien, il nous reste à souhaiter que renouvellement de la classe politique et renouvellement du travail parlementaire aillent de pair. En tout cas, je crois que c'est une des conclusions possibles de l'échange que vous venez d'avoir. Merci vivement à tous les deux pour votre participation au débat de ce soir. Et bonne chance à l'un et à l'autre pour la suite. Alors, pardon pour ce petit artifice, mais la retransmission radiophonique s'est interrompue là. Et donc, nous pouvons passer maintenant aux questions de la salle.
À des échanges qui sont justes pour nous.
Et donc, vous avez un micro à votre disposition, deux micros à votre disposition. Nous allons prendre deux ou trois questions. Et puis, nous écouterons aussi une question qui nous viendra de Bordeaux et qui nous sera retransmise à la fin de cette série.
Bonsoir, merci pour l'organisation de cette soirée et merci aux deux intervenants. Puisque vous évoquiez Bordeaux, et par rapport au début de l'intervention de M. Thiers, je voulais savoir quel était votre avis à tous les deux par rapport au résultat de la conférence de consensus présidée par Véronique Fayet, présidente du Secours catholique et aussi ancienne adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, qui a eu lieu il y a grosso modo 2 ans, à l'initiative du collectif Dépassons-nous, et qui demandait que la démocratie participative, qui s'oppose pas du tout à la démocratie représentative, elle peut être complémentaire si on n'est pas démago et poujadiste, mais que justement cette démocratie participative manque de financement. Et cette conférence de consensus concluait à une proposition que ces associations, ces mouvements citoyens qui sont sur le terrain puissent bénéficier de financement équivalent à 1% de l'ancienne réserve parlementaire, bien sûr, maintenant elle n'existe plus, il faudra trouver d'autres comparaisons, mais en tout cas de financement pérenne pour pouvoir mener la citoyenneté au niveau local. Et dans le même temps, effectivement, le mouvement Dépassons-nous s'est aussi fondé parce que Mohamed Mekmach, qui l'anime avec Marie-Hélène Baquet, un rapport, pardonnez-moi, je termine, juste 30 secondes, parce que c'est très intéressant, avait produit un rapport sur la politique de la ville, ça ne se fera plus sans nous, avec notamment création de conseils citoyens. Et Marie-Hélène Baquet, qui est quand même une scientifique, une sociologue très pondérée, regrette que ces conseils citoyens, dit-elle, ont été instrumentalisés par beaucoup d'élus locaux, avec la passivité des représentants de l'État, des sous-préfets à la ville, des
préfets. Pardonnez-moi, mais comme
Amélie
de Montchalin doit nous quitter à 8h30, je me permets de vous interrompre.
Mais vous avez raison, monsieur.
Mais par
voilà,
souci de pouvoir écouter.
Bien sûr.
Voilà, si vous voulez bien prendre une deuxième question,
voilà,
s'il vous plaît.
Donc simplement, on a besoin de votre réponse précise.
S'il vous plaît.
Merci
beaucoup.
Bonsoir. Thierry Mas. Depuis le 18 juin, nous avons donc de nouveaux élus. Mais le peuple, lui, reste toujours constant dans ses habitudes. Les permanences de partis voyaient frapper à leur porte des gens, des individus ou des représentants de divers groupes, demander pour eux-mêmes ou pour ceux qu'ils représentent qui des avantages, qui des sous, qui un coup de pouce. Cela ne finirait-il pas par façonner une classe politique, la classe politique, à refaçonner la nouvelle classe politique pour la faire revenir à des comportements antérieurs?
Merci beaucoup. Nous allons répondre à ces deux questions. Est-ce que nous pouvons avoir la question donc de nos amis bordelais? Oui, non, non. Notre correspondant n'est pas là. Bon, eh bien, écoutez, Amélie de Montchalin, je vous donne tout de suite la parole puisque vous devez nous quitter
Alors,
rapidement.
Sur la démocratie participative et les mouvements citoyens, En Marche a été une forme de mouvement citoyen avant d'être un mouvement qui devient naturellement plus politique et plus dans l'ordre d'un parti, même si on est très attaché à dire qu'on est un mouvement. Je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que le risque, c'est la récupération, et qu'il y a une chose qui est de faire vivre le débat au niveau local, et l'autre chose, c'est d'en s'en servir pour ensuite être en appui ou en soutien de telle ou telle réforme. Je garde l'idée de pouvoir dédier 1% de l'ancienne réserve parlementaire, c'est-à-dire 1,5 million d'euros, au financement de ces mouvements en France. C'est une bonne idée. Je pense que la réforme constitutionnelle qui arrive, Éric Thiers sera probablement consulté sur cette réforme, peut-être. Vu son expertise, ça peut être des idées sur comment on refait vivre aussi une démocratie à tous les échelons et comment justement, et vos arguments sont bons, les citoyens gardent un lien avec le débat public en dehors des élections. Donc je garde l'idée. Sur les lobbies, puisque c'est un peu ce que je comprends qui était derrière le sens de votre question, et sur les gens qui cherchent surtout de l'appui avant de donner de soutenir l'action, je pense que pour l'instant, ils sont déboussolés parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc, ils ont plus de mal à nous trouver. Certains ont eu l'air d'avoir trouvé mon numéro de téléphone, donc je leur ai dit que je ne savais pas très bien comment vous avez fait, mais donc ils nous trouvent quand même, finalement. Je pense qu'il y a une vraie, effectivement, réflexion à avoir sur qui sont les personnes qui se donnent ou qui pensent avoir un accès direct mais ça peut être aussi, d'ailleurs, au ministre, au pouvoir exécutif. Et qui avance des arguments d'autorité en disant « vous devez nous écouter parce que ». Alors moi, j'en ai vu dans mon bureau. Hein. Bon, en général, ils ressortent à la fois contents de voir que je suis énergique et un peu surpris parce que je n'ai pas toujours été dans leur sens dès la première minute. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Alors, ce n'est pas forcément par la transparence, parce que je ne pense pas que c'est parce qu'on a dit qu'on a rencontré tel ou tel groupe qu'on est libre dans son action, mais sur comment on factualise nos décisions, comment on explique les arbitrages qui ont été pris, comment aussi on montre que voilà, on est conscient qu'on fait des gagnants et potentiellement des perdants, et qu'on assume ça de manière beaucoup plus transparente. Mais je pense que c'est effectivement des choses sur lesquelles notre système, en tout cas en France, n'est pas mûr. Et il y a aussi beaucoup de fantasmes sur vous avez vu un tel, donc c'est pour ça que vous défendez telle mesure. Bon, en général, moi, quand je rencontre les gens, c'est plutôt pour me donner l'idée que vu que ça les concerne, ils ne trouvent pas ça complètement aberrant. Mais je vois aussi les gens que ça concerne potentiellement en effet négatif. Voilà.
Pour prendre les questions dans cet ordre-là. Sur le fait que les parlementaires aient des contacts avec ce qu'on appelle des groupes d'intérêt, mais derrière cette notion, il y a une notion juridique, mais aussi une notion plus large, c'est pas normal en soi. Je veux dire, finalement, c'est une manière pour la société de s'organiser, de faire valoir un certain nombre d'intérêts. Que la société s'organise soit par le biais d'associations, de syndicats, de groupements professionnels, pour faire valoir un point de vue, et le faire valoir auprès notamment des parlementaires, c'est plutôt un signe de dynamisme et de vitalité. La question est de savoir si ça se fait en transparence, si on considère que les parlementaires sont tenus ou pas par ce qu'ils écoutent. Je pense qu'on peut leur faire beaucoup de reproches, mais pas celui de considérer qu'il suffit qu'on leur dise quelque chose pour qu'ils l'exécutent sans condition. Je voudrais insister aussi sur le fait que la France a connu depuis assez longtemps, mais surtout depuis 2013, beaucoup de lois relatives à la transparence, qui contraignent les élus, et pas seulement les élus, à des déclarations. On a depuis ce qu'on appelait la loi Sapin de fin 2016, des registres publics, des lobbies, des groupes d'intérêt. Les lois confiance qui ont été adoptées en août dernier et promulguées en septembre ont aussi apporté beaucoup de choses en la matière, comme un registre des déports pour les parlementaires, pour les membres du gouvernement. Donc tout ça est assez naturel et se fait ou doit se faire dans la plus grande transparence. Et on a maintenant une législation qui en Europe est extrêmement robuste et qui n'a pas à souffrir de la comparaison avec bien des pays, y compris anglo-saxons ou nordiques, qui, de manière un peu génétique, pratiquaient cela auparavant et qui ont connu aussi des scandales. Pour ce qui concerne la démocratie participative, moi je suis frappé par le fait qu'il y a 10-15 ans, c'était un sujet émergent, qu'un certain nombre d'entre nous regardaient ou écoutaient en ricanant, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, des gens tirés au sort, c'est complètement loufoque. Et finalement, alors d'autres pays l'ont pratiqué, je pense par exemple à l'Islande, et on s'aperçoit que, effectivement, on peut plus se contenter d'avoir des élections tous les 5 ans. Il faut qu'entre deux scrutins, les citoyens aient aussi des moyens d'intervenir. Alors c'est un exercice compliqué, connecter la démocratie représentative et la démocratie participative, les faire fonctionner ensemble, c'est très compliqué d'un point de vue très pratique en fait. On a parlé à un moment donné des amendements citoyens. Est-ce qu'on doit permettre aux citoyens de déposer des amendements finalement au Parlement? Alors sous quelles conditions? Conditions de nombre, est-ce que juridiquement il faut que ces amendements soient bien écrits, comment est-ce qu'on contrôle tout ça? Puis vous avez aussi derrière la problématique des minorités agissantes. Parce que derrière, là pour le coup, vous avez des lobbies puissants, des gens qui sont capables de s'organiser, qui sont capables de mener des campagnes médiatiques, sous forme de pétitions, etc. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande ouverture de toutes les forces politiques à l'égard de la question de la démocratie participative, et on est à la recherche des bons mécanismes institutionnels pour que cela fonctionne. Le 3 juillet dernier, le président de la République est intervenu au congrès du Parlement, devant les députés et les sénateurs. Il a clairement dit que c'était l'une des pistes, notamment de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, auquel il faut donner un rôle sans doute plus actif. Et c'était notamment évoqué le fait qu'il y ait des consultations publiques qui puissent être organisées par cette Assemblée constitutionnelle.
Là-dessus, sans être caricatural, c'est pas parce que des gens se font entendre qu'ils sont représentatifs. Et on le voit bien, enfin localement, hein, quand on fait des... Moi, j'ai pas fait une campagne avec des réunions publiques,
J'ai fait une campagne qu'en étant dehors, à faire des espèces de réunions permanentes dehors avec mon micro, à ce que les gens me posent des questions et que je réponde. Et l'objectif de ça, c'était une stratégie qui était pour moi très pensée, c'est que je voulais parler à des gens qui n'avaient pas d'avis sur ce qui j'étais et qui ne savaient pas si quand ils allaient rentrer dans la pièce, ils étaient déjà pour ou déjà contre. Parce que ce qui est clair, c'est que quand vous faites, même on le voit au niveau local, vous avez un projet d'urbanisme, ne viennent dans la salle en général que ceux qui sont d'abord contre. Et ils font beaucoup de bruit. Donc on le voit, moi j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Parlement et Citoyens, qui en fait des consultations citoyennes en ligne, assez sophistiquées. Et le but, c'est pas vous êtes pour, vous êtes contre, c'est comment vous aimeriez amender le texte. Donc en fait, ça produit du contenu qui est assez intéressant. Mais effectivement, il y a peu d'outils qui vous permettent d'être dans le contenu et pas dans juste j'ai devant moi des gens en colère. Et ça, c'est compliqué. Parce que si vous êtes en train de tester par la participation uniquement des arguments négatifs, bah vous perdez aussi tous ceux qui sont pour ce que vous cherchez à faire.
Nous prenons une question qui s'adressera plutôt à Madame de Montchalin. Une question pour elle, puisque vous devez nous quitter dans quelques minutes maintenant. Oui.
Merci. Est-il vrai que dans le budget, vous décidez de 5% des sommes? Quand vous votez le budget, tous les services, le paiement des fonctionnaires et tout ça, doivent être reconduits. On ne peut pas les mettre dehors, il faut les payer.
Quelle est votre marge de manœuvre?
Si vous voulez parler politique, c'était peut-être le cas. Dans le budget que je défends avec mes collègues, et dont je vais aller parler tout de suite avec les ministres, c'est un budget de choix. Donc vous pouvez regarder dans les journaux, on est en train, comme je dis, de bouger des milliards. Il y a des ministères qui ont beaucoup moins d'argent et des ministères qui ont beaucoup plus d'argent. Sur l'armée, sur l'éducation, inversement, on a dit que voilà, les contrats aidés, on allait faire autrement. Sur le logement, on allait faire autrement. Donc le budget qu'on porte là en ce moment, moi je ne peux pas parler du passé, mais j'ai l'impression d'être au cœur d'un exercice de réarbitrage et de choix. Où est-ce qu'on met l'argent public dans des proportions qui sont effectivement assez importantes. Alors après, si vous me dites, quand le gouvernement nous transmet sa copie budgétaire, notre capacité à amender le texte, et donc quelle est en gros, de combien on peut nous poser des choix en deuxième partie de travail qui soient portés par les parlementaires. Et c'est ça que je vais aller faire avec les ministres à l'instant. Effectivement, on ne nous dit pas, vous avez... les 70 milliards de déficit à arbitrer, ou le 80 milliards, on n'est pas sur ces proportions-là. Effectivement, la marge de manœuvre de réallocation budgétaire est faible, mais parce qu'on travaille avec le gouvernement en amont. C'est que les choix budgétaires qui sont posés là sont le reflet d'abord de notre programme, sont le reflet de ce qu'on a défendu auprès des Français pendant notre élection, et surtout, il y a beaucoup de choses qui ont été... dans le détail, en fait, assez regardé par les parlementaires avant même que le texte arrive. Et ça, je pense que c'est assez nouveau, parce que tous les gens qui travaillent dans les cabinets ministériels sont apparemment, mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne avant, disent, en fait, les parlementaires sont beaucoup avec les ministres et leur cabinet. Mais après, effectivement, le pouvoir de vote, enfin, ça paraît assez sain. Vous imaginez, si on remettait tous les arbitrages sur la table, c'est pas 3 mois qu'il nous faut pour voter un budget, c'est 5 ans, si on est 313 à donner son avis. Donc il y a une part d'efficacité et après il y a une part aussi de cohérence avec un programme et donc on suit la ligne, en tout cas d'ensemble, de notre gouvernement. Et après on amende, mais on amende effectivement plutôt à la marge.
Bien, merci beaucoup. Je crois que nous devons malheureusement, enfin ou heureusement, puisque vous allez aller travailler pour nous tous, vous dire au revoir en vous souhaitant bon travail et bon courage. Merci infiniment. Alors, nous pouvons reprendre une autre série de questions. Si les doigts veulent bien se lever, il nous reste encore un quart d'heure.
C'était pour avoir une petite précision, parce que à plusieurs reprises, Madame a employé le mot de fonctionnement. Madame a employé le mot de du fonctionnement des programmes par objectif. Et sachant que lorsqu'on fixe des objectifs, il y a toujours une marge de manœuvre. La façon dont on fixe le je vais y arriver, l'objectif. Et je perds mes mots. Je passe le micro.
Donc le problème que vous souhaitez poser, c'est de savoir comment, en fonction des objectifs, peuvent travailler les parlementaires pour les atteindre et insérer cela dans...
Et ne pas atterrir dans l'idéaliste.
Et ne pas tomber, voilà, rester dans ce qui est accessible, atteignable, c'est un mot que j'aime pas trop. Alors Eric, il y a toute une façon de travailler là-dessus.
Il y a une chose qui permet aux parlementaires de rester dans la réalité, c'est qu'ils travaillent sur des textes. Travailler sur un texte, faire une loi, c'est assez concret. Et ce n'est pas un exercice facile. Et ce que je remarque, c'est que depuis quelques années, on a essayé de développer, sans doute pas assez, il faudrait le faire plus encore, travailler ce travail législatif, de lier ce travail législatif au travail de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est quelque chose que le Parlement a toujours fait, le contrôle de l'action du gouvernement. Les premières commissions d'enquête existaient déjà au XIXe siècle. Mais on développe de plus en plus, et c'est inscrit dans la Constitution depuis 2008 seulement, on développe de plus en plus les fonctions d'évaluation des politiques publiques. Alors ça, c'est un des grands axes de cette législature, c'est de vouloir développer cela. Ça permet, d'une part, d'évaluer la nécessité ou pas de changer la législation. Donc il y a un travail en amont, préalable, pour savoir si on doit faire évoluer tel ou tel type de loi en fonction de ce que donne une politique publique. Et puis derrière, il y a, une fois qu'on a adopté la réforme, en mesurer les effets. Et ça, c'est quelque chose, un exercice dans lequel la France n'a jamais été très performante. Et ça aussi, pour les parlementaires, c'est une forme de mission, c'est une mission dans laquelle ils doivent beaucoup plus s'investir sans doute. Alors on a mis à partir de 2008-2009 quelques outils à disposition. Il y a par exemple à l'Assemblée nationale un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui a pas mal fonctionné et puis c'est un peu été un peu moins mis en avant ces dernières années. Mais voilà, c'est une manière de rester dans la réalité et c'est sans doute une bonne manière que d'évaluer les politiques publiques et de voir si elles ont un effet concret dans la vie des citoyens.
Alors, d'autres questions? Moi, j'en ai une en attendant que le micro arrive à l'observateur sur la longue durée de la vie parlementaire et aux péguistes. Est-ce que la succession des différentes républiques, professeurs, énarques, qu'est-ce que Peggy aurait pensé de cette république des entrepreneurs?
Alors je ne vais pas revenir sur son texte L'Argent, publié en 1913, où Peggy décrivait justement, mais il l'avait fait bien avant, la contamination du monde moderne par l'argent. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans le mouvement En Marche et dans ce fameux En même temps dont on parle beaucoup. Et là, je renvoie aux travaux de mon maître Jacques Julliard. Que ça correspond à ce que Jacques Julliard appelle une dialectique française, qui puisse chez Pascal, Proudhon et chez Peggy. C'est cette capacité, contrairement à la dialectique hegelienne ou allemande, qui consiste à avoir une thèse, une antithèse, et on fait la synthèse, et on mêle tout ça, avoir toujours deux principes contraires, qui ne se mêlent jamais l'un à l'autre, mais qui, par le jeu, par l'interaction entre eux, arrivent à créer une dynamique, un mouvement, à être en marche, en quelque sorte. Et je dis ça pour faire un peu sourire, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez profond là-dedans, à considérer que on a souvent voulu, dans notre vie politique, c'était assez classique, opposer des idéologies les unes aux autres et adopter des schémas tout faits, en quelque sorte, complètement déconnectés de la réalité. Et ça, Peggy n'aimait pas du tout. Pour lui, il fallait dire bêtement la vérité bête, et surtout se laisser porter par l'événement, savoir voir ce que l'on voit. C'est ce qu'il aimait à écrire. D'une certaine manière, c'est aussi ça, cette nouvelle République, c'est la capacité à voir la réalité, à voir le surgissement de l'événement, le surgissement du réel, et à en tirer les conséquences. En tout cas, ne jamais se laisser aller à la discipline. Peggy était adepte de l'acratie, il refusait le pouvoir, en bon anarchiste libertaire qu'il était, mais en même temps, il était un passionné de l'action sociale. Il voulait agir sur la société pour en faire une société plus juste, ce qui est son grand mot, la justice.
Monsieur. Oui, vous avez, monsieur Thiers, évoqué les trois critères d'évaluation de la classe politique, ouverture, efficacité, morale. Alors, moi, je voudrais vous poser une question sur l'efficacité. Vous êtes, je crois, un bon connaisseur de la mécanique parlementaire, et ce qui frappe les citoyens, c'est de voir que bien que les députés soient soumis à une très grande pression pour agir très vite, la fabrication des lois est interminable, sans compter les décrets d'application qu'on attend parfois très longtemps. Donc, est-ce que dans les réformes actuellement envisagées, il y a des choses qui vont permettre de travailler plus vite, plus efficacement, parce que comparé au mode de décision dans l'entreprise, on est quand même assez frappé de la différence.
Alors ça, c'est un problème qui est très intéressant parce que finalement, le Parlement, il est soumis à des injonctions contradictoires. Le Parlement, c'est fait pour débattre, pour mettre sur la place publique un certain nombre de questions qui supposent un peu de maturation. Donc une loi, pour qu'elle soit bien faite, il faut un petit peu de temps pour la faire. Mais en même temps, on se rend bien compte, et notamment avec le quinquennat depuis 2000, et sa mise en place finalement en 2002, on est dans un temps politique extrêmement court, on a une pression médiatique très forte, l'exécutif doit agir, s'il veut récolter les fruits de sa réforme, il doit faire les grandes réformes au tout début du quinquennat. Donc il faut qu'on arrive à concilier cette nécessité de prendre un peu de temps pour faire les choses bien, mais en même temps d'aller vite pour que le monde changeant sans cesse, les réformes que l'on fait ne passent pas à côté de leurs objectifs parce qu'elles seraient trop lentes à mettre en œuvre. De ce point de vue-là, on peut estimer qu'on va trop lentement. Si on regarde les statistiques, on s'aperçoit dans les pays européens qu'en dehors des cas où on a des régimes monocaméraux, c'est-à-dire avec une seule assemblée, la France se situe plutôt bien. Il faut 149 jours, je crois, en moyenne pour adopter un texte, ce qui n'est pas si considérable. Cela dit, on peut considérer que c'est trop encore. L'enjeu, par exemple, des groupes de travail qui ont été mis en place par François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, est d'essayer de trouver le moyen, je ne dirais pas de compresser le temps finalement, mais de le rendre plus utile. En fait, on s'aperçoit qu'on est un observateur des débats parlementaires, qu'il y a toute une série de débats dont on pourrait se passer. Par exemple, on est sur un texte, il y a plein d'amendements qui arrivent, qui ne sont pas vraiment liés au texte, on en débat très longuement, alors qu'on devrait se concentrer sur le texte initialement déposé. Est-ce que là, il n'y a pas des moyens de remédier à ça? Et puis, pour ce qui concerne l'application des lois, ça a été longtemps un très grand problème. On a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, les structures administratives se sont organisées, il y a des tableaux de bord qui existent, qui sont publics, hein, qui sont sur Internet, où on voit les décrets d'application pris plutôt rapidement maintenant, les taux sont plutôt bons, et c'est un motif quand même de satisfaction, parce qu'on était très mauvais pendant longtemps, et on voit que la structure politique administrative a su se mettre en place pour réduire le temps pour que les réformes soient mises en œuvre. Donc, tout n'est pas parfait. Je pense que ça va être à l'agenda, notamment des réformes institutionnelles qui sont annoncées. Les parlementaires y travaillent. Il y a une prise de conscience collective. Mais il y a eu quand même des progrès qui ont été accomplis depuis plusieurs années en la matière. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression que rien n'est fait. Par ailleurs, la comparaison avec le monde de l'entreprise, elle a ses limites. Il faut accepter parfois aussi que le débat ait lieu parce qu'on sait très bien que des réformes qui ne sont pas assez débattues peuvent susciter aussi beaucoup de réactions négatives. Donc c'est un équilibre à trouver entre la célérité et l'exercice normal de la démocratie.
Je me pose simplement cette question, c'est est-ce que le renouvellement des élites politiques ne risque pas d'être absorbé par le non-renouvellement des élites médiatiques?
Toute la salle n'ayant pas entendu la question, je me permets de la répéter. Est-ce que le renouvellement des élites politiques ne risque pas d'être absorbé par le non-renouvellement des élites médiatiques?
Sans vouloir faire de procès aux médias, il y a là une question considérable. Il y a un décalage entre la complexité des processus politiques, par exemple parlementaires. C'est compliqué une loi à fabriquer. Vous avez une multitude d'intervenants, c'est très technique. Quand vous lisez une loi, c'est souvent illisible pour si vous n'avez pas fait d'études de droit ou si vous n'êtes pas connaisseur du sujet. Donc tout ça suppose de la maturation, c'est un organe collégial. Et c'est en parfaite contradiction avec ce qu'est le système médiatique ou de communication aujourd'hui, qui exige des choses rapides. On aime bien les aventures individuelles, alors que le Parlement est un être collectif et complexe. On aime les choses simples, alors qu'il n'y a rien de plus compliqué, comme je viens de le dire, que la loi. Je ne sais pas si il faut renouveler les élites médiatiques, mais en tout cas, là, il y a une vraie question qui est, je trouve, par exemple, le développement des chaînes d'information en continu ont eu des effets positifs parce que, alors qu'on est dans une période où les médias ne s'intéressaient plus au Parlement, parce que ces chaînes ont besoin d'alimenter leur canal sans arrêt, viennent beaucoup plus au Parlement. Donc on a la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale avait été désertée par les agences. Il restait encore quelques représentants de l'AFP, etc., ou de Reuters. Mais sous la 4e République, il y avait les agences, il y avait des grands journalistes parlementaires, etc. C'était une tradition qui avait un peu disparu. Et on a vu depuis quelques temps apparaître les caméras des chaînes d'information. Vous les voyez. Il y a toujours des interviews. Donc c'est intéressant parce que ça donne la parole aux parlementaires et ça permet de rentrer dans les débats. Ça montre que l'Assemblée n'est pas cette espèce de château de la Belle au bois dormant qui ne ferait rien ou quand elle ferait quelque chose, le ferait mal. Mais en même temps, il y a un côté simplificateur de ce média qui est assez parfois terrifiant. Et puis aussi ce goût pour le sensationnel. Vous n'arrivez pas, vous avez de plus en plus de mal à trouver des médias. Bon, il y en a qui émergent, mais trouver des médias qui prennent un peu de temps pour expliquer les choses. Alors, ce que je dis est assez aussi simpliste. Je me caricature moi-même parce qu'il y a aussi de nouveaux organes qui apparaissent, il y a sur Internet, il y a même des citoyens qui s'organisent pour décrypter les débats parlementaires. Donc il y a plein de choses nouvelles qui se font, mais la question du temps médiatique, de la manière dont les médias traitent l'actualité politique est un vrai sujet, notamment parce que c'est un miroir extrêmement déformant qui peut alimenter à certains moments des réactions négatives vis-à-vis de l'action politique, quels que soient d'ailleurs les bords et les partis politiques qui agissent.
Il est 20h45, c'est la fin de cette soirée. Merci de votre participation. Merci aux intervenants, enfin à l'intervenant qui reste, on les remercie Amélie. Là, n'oubliez pas les petites caisses qui est à la sortie. Là, rendez-vous pour la prochaine soirée d'éthique publique qui sera le mardi 7 novembre. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Europe, le 7 novembre, c'est l'anniversaire de la révolution dite d'octobre. Donc, la prochaine soirée d'éthique publique, il y a 100 ans, le 7 novembre 1917, les bolcheviks prenaient le pouvoir à Petrograd. Donc nous consacrerons notre prochaine soirée à la révolution russe et à l'idée de révolution. L'idée de révolution a-t-elle encore un avenir C'est ce que nous débattrons dans un mois. Merci et bonne soirée.